Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, 15e épisode, l'Église et la Révolution.
L'Église et la Révolution. La grande révolution de 1789, qui débouche sur le consulat en 1799, après le coup d'État du 18 Brumaire en 8, 9 novembre 1799, et sur le Premier Empire à partir du 18 mai 1804. L'œuvre positive, bienfaisante de la Révolution a été effectuée en quelques semaines de cette année, somme toute faste, qu'est 1789. Ouvert le 5 mai, les États généraux se muent en Assemblée nationale constituante dès le 17 juin. D'absolu qu'elle était, la monarchie devient dès lors constitutionnelle, même si la Constitution n'est promulguée qu'un peu plus tard. La suppression des privilèges a lieu dans la nuit du 4 août. Les droits de l'homme et du citoyen sont proclamés définitivement le 26 août. Ainsi, en quelques jours, la France passe de l'ancien régime à la liberté et à l'égalité politique. C'est un incontestable et considérable progrès qui ouvre à l'Europe et au monde des voies nouvelles en accord avec le parlementarisme anglais et la jeune démocratie américaine. Malheureusement, dès ces premières semaines passées, les passions bestiales, la soif de vengeance, la violence, la cruauté se déchaînent. Il y aura près de 15 000 condamnations à mort suivies d'exécutions à la guillotine et une multitude d'exécutions sommaires et de victimes des guerres civiles ou étrangères. Dans notre département, on a compté une cinquantaine d'exécutions capitales, parmi lesquelles celles d'une dizaine de prêtres. Quelques-uns étaient basques, ainsi Gratien Jorretx de Combo, vicaire haïnois, guillotiné à Pau, il avait 30 ans. Également Salvat de Sorinde, lui aussi de Combo, guillotiné à Bayonne, ou François Laetchipi de Sarre, vicaire de Saint-Pé. Cela était insermenté. Par contre, Lafont, curé constitutionnel de Bénéjac, est arrêté et guillotiné pour avoir protesté trop bruyamment au gré des révolutionnaires contre la fermeture de son église. Parmi les victimes, on voit une dame Cando de Lucaré guillotiné pour le seul motif d'avoir adressé une lettre à son jeune fils émigré en Espagne. La plus célèbre de ses victimes est Madeleine Larald, la jeune charlatane de 16 ans que l'armée arrête chez les capucins de Vera de Bidassoa où elle était allée se confesser. Mais il y a chez nous bien d'autres victimes de la Révolution. Dès lors qu'elle a pris le visage de la terreur, conduite par les représentants du peuple, Monestier, Pinet, Cavaignac et d'Artigoeite. Par exemple, la mortalité est effrayante. Parmi les 4 000 déportés de Sarre, d'Asquin, d'Itsassou, de Souraille, d'Espelette, de Combo, de Louhoussois, parqués dans des conditions épouvantables, dans les églises transformées en prisons de Cabreton, Saint-Vincent de Tyros, Dax et d'autres agglomérations des Landes du printemps à l'automne 1794. La Révolution fait donc des centaines de milliers de morts qu'il est impossible de dénombrer avec précision, tellement les exactions, les violences et les crimes de toutes sortes se sont multipliés à travers tout le pays. Le 14 juillet de cette même année 1789 a marqué le début d'une longue suite de turpitudes. On n'a plus compté les têtes promenées au bout des pics. Les Bleus en Vendée portaient des chausses faites de la peau tannée des royalistes. Le génocide vendéen n'est qu'un épisode parmi tant d'horreurs. On a vu des cas de cannibalisme. Et tous ces révolutionnaires, d'ailleurs, se déchiraient entre eux, s'envoyaient à l'échafaud ou à Cayenne, les uns après les autres, Montagnard après Girondin, Hébert après Danton, Robespierre après Hébert, puis Carrier, puis Chaumette, etc., etc. Rares sont ceux qui ont échappé à l'hécatombe. Mon dessein n'est pas de vous raconter la tumultueuse et terrible histoire de la grande Révolution française. L'objet de notre entretien est plus limité, mais encore très ou trop considérable. Comment l'Église a-t-elle vécu cet immense drame et quels en ont été pour elle les effets? En cette fin du XVIIIe siècle, la société française était profondément et à peu près unanimement marquée par la tradition catholique. Ses rites, ses coutumes, ses pratiques, ses sentiments, ses croyances. Même en Voltaire, il arrivait de faire ses Pâques et il construisait une église pour les villageois de Ferney. On avait vu Louis XV, croisant dans les rues de Paris un prêtre portant le viatique, arrêter son carrosse, en descendre et s'agenouiller sur le pavé pour adorer le Saint-Sacrement. Le clergé était extrêmement nombreux. Séculiers et réguliers composaient un total de près de 130 000 membres, plus de 50 000 curés et vicaires, 30 000 religieux, 40 000 religieuses. Par exemple, à Sparin, 17 prêtres desservaient la paroisse avant la Révolution. À Nancy, autre exemple, pour 30 000 habitants, on comptait 32 maisons religieuses et 600 moines et religieuses, 232 chanoines pour la cathédrale. Les évêques et les abbés étaient partout, dans les salons, les sociétés savantes, les loges maçonniques. Les premiers ministres portaient la pourpre cardinalice, ainsi Dubois, Bernis, Fleury. Cependant, au milieu du siècle, on dénote un fléchissement du sentiment chrétien. Est-ce le fait du gallicanisme et du jansénisme, ou plutôt de l'action des encyclopédistes et de la philosophie des Lumières, des innombrables ouvrages et libelles d'hétérodoxes sinon datés, comme Voltaire, Rousseau, l'abbé Raynal, D'Alembert, D'Holbach, Helvétius, Lamétrie et leurs émules. Toujours est-il que l'athéisme, jusqu'alors inconnu, fait son apparition et qu'une pensée critique à l'endroit de la religion se répand. À partir du moment où le roi, sur la proposition de son ministre Brienne, a décidé de réunir des états généraux pour la première fois depuis un siècle et demi, les membres du clergé, surtout du bas clergé, prennent une part active et souvent enthousiaste à sa préparation. On sait qu'à cause des dépenses occasionnées par la guerre d'Amérique, d'une série de très mauvaises récoltes et d'un système fiscal à la fois injuste et déficient, la situation du pays était grave. Les émeutes suscitées par la cherté des vivres, particulièrement du pain, qui était alors la base de l'alimentation des Français, étaient nombreuses dans les campagnes. Des réformes urgentes et importantes s'imposaient. Les prêtres en ont conscience. Ils prennent une part active à la rédaction des cahiers de doléances. Certains d'entre eux acquièrent déjà une réputation qui n'est pas près de s'éteindre. Ainsi, Henri-Baptiste Grégoire, curé d'Ambert-Mesnil en Lorraine, qui, dès 1788, écrit un essai sur la régénération physique, morale et religieuse des Juifs, et surtout le vicaire général de Chartres, Emmanuel-Joseph Sieyès, qui écrit en 1788 l'essai sur les privilèges et en janvier 1789 la célèbre brochure « Qu'est-ce que le tiers-état ?»« Rien, que veut-il être ?»« Quelque chose ?» Le retentissement et l'influence de ses écrits sont énormes. À Versailles, les États généraux, ouverts le 5 mai 1789 et les premières semaines passées dans l'attente et l'indécision, les représentants du clergé prennent une initiative décisive. Le roi voulait imposer des délibérations par ordre, c'est-à-dire chaque ordre, le clergé, la noblesse, le tiers-état, discutant chacun de son côté, dans son local, et devant faire au roi des propositions. Ce sont des curés poitevins qui, le 13 juin, rejoignent les députés du tiers-état dans la salle dite des menus plaisirs, créant le mouvement irrésistible qui aboutira au serment du jeu de pommes et à la constitution de l'Assemblée nationale. Journée décisive, répétons-le, que ces journées de juin 1789. La monarchie absolue est morte. Avec le passage des États généraux au Conseil consultatif à une Assemblée nationale constituante, en fait souveraine, la révolution est faite. Le clergé y a si fortement contribué qu'on peut bien répéter l'exclamation fameuse d'un contemporain « Ce sont ces foutres de curés qui ont fait la révolution ». La société d'Ancien Régime était terriblement inégalitaire. Les nobles vivaient pour beaucoup dans l'opulence, à la cour, dans l'armée, dans l'administration. Les postes importants leur étaient réservés. Les roturiers portaient le poids du travail et des charges fiscales dans des conditions souvent misérables. Pour le clergé, il était divisé en deux groupes distincts. Le haut clergé, évêques, abbés de monastères, vicaires généraux, bénéficiaires bien pourvus, se recrutaient dans les familles nobles, tandis que les curés, les vicaires et autres desservants étaient de modeste ou d'humble origine. Les ressources dont disposaient les uns et les autres étaient extrêmement différentes. Ainsi, le cardinal de Rouen, archevêque de Strasbourg, celui du collier de la reine, touchait 400 000 livres par an. Et encore, cela ne suffisait pas à couvrir ses dépenses, tellement il vivait dans le luxe et la vanité, il était criblé de dettes. Un vicaire de campagne touchait, lui, 350 livres par an. En bonne arithmétique, 1142 fois moins. En 89, il y a dans tous les milieux une aspiration à réduire ces terribles inégalités, cette effrayante injustice. C'est ce qui provoque, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges dans un climat de haute tension, quand la violence s'est répandue dans tout le pays, quand les émeutes se multiplient, que les châteaux brûlent, que les abbayes sont prises d'assaut, quand les nobles, à la suite du comte d'Artois, commencent à prendre le chemin de l'exil. Désormais, plus de privilèges, plus de franchises, plus de liberté particulière pour des communes ou des provinces, égalité de tous devant la loi, admission de tous aux emplois, égalité absolue devant l'impôt, plus de droits au pape, plus de droits aux évêques, plus de dîmes. Tout cela fut décidé et promulgué en quelques jours après cette nuit fameuse, et l'on s'imagina avoir tout réglé et résolu toutes les difficultés. Ce n'était pas une mince illusion. Dans les mois qui suivent, l'Assemblée nationale vote deux décrets qui change considérablement la situation du clergé. Le premier que Talleyrand Périgord, l'évêque d'Autun, a proposé confisque tous les biens du clergé au profit de la nation. Ils seront vendus pour couvrir la valeur des assignats. C'est le 2 novembre 1789 que cette loi est votée par 568 députés sur 954. Le 13 février 1790, sur proposition de Jean-Baptiste Trélard, député du Tiers pour Paris, un décret interdit les vœux de religion et prononce la suppression des congrégations qui n'ont pas une vocation hospitalière ou enseignante. Comme on voit, ce sont deux décisions dont la portée sur la vie de l'Église est considérable. Et pourtant, elles n'ont pas ému l'opinion ni provoqué des résistances au point qu'on aurait pu attendre. Il faut savoir en effet qu'à cette époque, l'État religieux, et plus notablement encore l'État monastique, avait perdu beaucoup de son crédit. Les monastères connaissaient une décadence et un relâchement sensible. Une abondante littérature avait glosé sur le moine fainéant et inutile, parasite de la société, tandis que, au contraire, était loué le bon curé, proche de son peuple, gardien de la morale, semblable au vicaire savoyard du bon Jean-Jacques. Le clergé et le peuple souhaitaient un retour à la pureté et à la pauvreté des premiers temps de la vie de l'Église. La crise qui va basculer l'Église dans la contre-révolution se déclenche un peu plus tard avec la constitution civile du clergé votée par l'Assemblée nationale le 12 juillet 1790 et agréée par le roi le 24 août suivant. Les mesures précédemment prises mettaient la vie des prêtres sous la dépendance de l'État. Privés des biens qu'ils avaient précédemment possédés, et comme l'opinion de l'époque était tout à fait opposée à une taxation des actes du culte, ce que nous appelons le casuel, ils ne pouvaient plus vivre que des émoluments qui leur seraient versés par l'État. Telle était bien la pensée des révolutionnaires. Il n'y a qu'un clergé utile, le clergé séculier, constitué par les curés et les vicaires, qui sont des fonctionnaires au service de la nation. Précédemment, l'Église avait constitué un corps distinct, avec son organisation indépendante, ses droits, ses bénéfices, ses traditions, ses tribunaux. La Révolution entendait en faire un instrument docile à son service. La constitution civile du clergé divisait la France en autant de diocèses que de départements, et les diocèses en paroisses, chacune autant que possible de 6 000 habitants. Les évêques, comme les curés, seraient élus par tous les citoyens actifs, c'est-à-dire en droit de participer aux élections de la vie politique. Les élections épiscopales n'avaient pas besoin d'être agréées par le pape, qui en serait simplement averti. Ce n'est que peu à peu, au fil des mois, et tandis que la Révolution prenait le visage de la terreur, que la majorité des prêtres comprirent que la constitution civile du clergé instaurait une Église schismatique, séparée de l'ensemble du catholicisme, oublieuse du pouvoir universel de juridiction du souverain pontife et asservie à un État de moins en moins chrétien. Ses défenseurs arguaient de cet idéal de pureté, de pauvreté dont nous avons parlé. En outre, il se situait dans la ligne d'une longue tradition d'autonomie de l'Église gallicane, marquée soit par la pragmatique sanction de Bourges de 1438, soit par la déclaration des quatre articles de 1682. Hier, le roi, aujourd'hui, la nation, bientôt, la République, elle est proclamée le 22 septembre 1792, règne sur l'Église de France. Ainsi vont s'opposer l'Église des patriotes et celle de la tradition catholique et de la fidélité. La cause prochaine de la fracture, ce sera le serment constitutionnel qu'un décret du 27 novembre 1790 imposait aux évêques, curés et vicaires de prononcer un dimanche après la messe devant les officiers municipaux et le peuple, serment de veiller avec soin sur les fidèles à eux confiés, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et approuvée par le roi. Ainsi, chaque responsable patenté de la vie de l'Église était mis en demeure de choisir publiquement entre le concours apporté à la Révolution, y compris sa politique religieuse, et le refus, avec tout ce qu'il comportait de risques d'exclusion, de misère et de danger. Le choix dramatique, angoissant, fut passionnément discuté par le clergé et par le peuple. Les évêques, à de très rares exceptions près, Talleyrand, évêque d'Autun, l'homélie de Brienne, archevêque de Sens, un ou autre encore, comme Louis de Charente, évêque d'Orléans, ou Charles Savine, évêque de Viviers, les évêques furent unanimes à refuser le serment. Et la plupart prirent le chemin de l'exil, en particulier l'évêque de Bayonne, Étienne Joseph de Pavée de Villevielle, qui, peu de temps après, mourra chez les cisterciens de la Oliva en Navarre. Sanadon, puis Sorine seront les évêques constitutionnels de Bayonne. Pour les prêtres dont on exigeait le serment, les curés et les vicaires, il semble qu'une légère majorité, un peu plus de 50%, l'ait effectivement prononcée, mais parfois avec des restrictions ou des conditions, en réservant les droits des spirituels ou sans vouloir attenter à l'autorité du pape. Et par la suite, un certain nombre d'entre eux, voyant la tournure que prenaient les événements, se rétractèrent. Tandis que le cœur du pays, de la Picardie au Limousin, du Maine à la Champagne, ainsi que le Sud-Est, connaissait un pourcentage impressionnant de jureurs, les provinces périphériques, la Bretagne, la Vendée, l'Alsace, la Lorraine, les Flandres, le Rouergue, le Pays Basque, étaient très majoritairement réfractaires. En Pays Basque, 12% de prêtres jureurs, 88% de réfractaires. On observait que la carte du refus correspond étroitement à la fidélité catholique, au taux élevé de pratiques religieuses enregistrées jusqu'à nos jours. Nous voulons dire, pour parler clair, que les régions qui sont restées les plus catholiques sont celles où le pourcentage de prêtres refusant de prêter le serment constitutionnel était le plus élevé. Faut-il considérer pour autant que les bons prêtres étaient d'un côté et les mauvais de l'autre? Gardons-nous d'un tel manichéisme. Dans cette situation difficile, les uns et les autres pouvaient avoir des motivations légitimes. La fidélité à l'Église et au pape chez les uns, l'attachement à leur peuple, la confiance dans les rénovations que la Révolution apportait chez les autres. Les réfractaires, écrit à ce sujet l'Américain Timothy Tecket, dans le travail de très haute valeur qu'il a consacré à la Révolution, l'Église et la France. Les réfractaires tendent à s'identifier nettement à la hiérarchie ecclésiastique des prêtres, alors que les jureurs s'insèrent plus aisément dans la communauté laïque et se considèrent serviteurs de l'humanité au même titre que serviteurs de Dieu. Et le même auteur parle encore à propos des premiers de l'identité cléricale et du modèle tridentin du prêtre, membre d'un monde supérieur, détaché et distinct de la société laïque. Le fait est qu'il y eut des prêtres et des évêques excellents parmi les uns comme parmi les autres. Quelques mois, les premiers de 1791, en attendant que le clergé constitutionnel fût en place, les pouvoirs publics se montrèrent patients et tolérants à l'égard du clergé réfractaire. Mais dès les premiers mois de cette année 1791, les non-jureurs devaient prendre le chemin ou de l'exil au-delà des frontières, ou de la clandestinité, ou de la prison. Le 29 novembre 1791, les Girondins faisaient voter par l'Assemblée législative un décret qui déclarait suspect de révolte les prêtres qui refusaient le serment. Ils étaient frappés de 2 ans de prison. Le 26 août 1792, un nouveau décret stipulait que les prêtres qui n'auraient pas quitté Paris dans la quinzaine seraient déportés en Guyane. Mais le comité de surveillance de la Commune de Paris refusa de délivrer des passeports à ceux qui voulaient partir pour l'étranger. Et ils furent enfermés au Carme et au séminaire Saint-Firmin. C'est alors, au cours des journées atroces de septembre 92, que s'ouvre la persécution sanglante dont près de 3000 prêtres seront victimes. Nous sommes à quelques jours de la proclamation de la République par la Convention, au moment de ce qu'on a appelé la Seconde Révolution, moment d'angoisse pour les révolutionnaires, quand le sol français est envahi, que Verdun est pris par les Prussiens de Brunswick, que la province se révolte à Lyon, à Toulon, dans l'Ouest. Pris d'une rage frénétique, quelques centaines de sectionnaires et de gardes nationaux se jettent sur la prison de l'abbaye, les Carmes, Saint-Firmin, la Salpêtrière. Pendant 3 jours, les 2, 3 et 4 septembre, ils massacrent les prisonniers de droit commun, les aristocrates, les filles perdues, les évêques, les prêtres, au couteau, à la hache, à coups de pique, de sabre, d'assommoir. Il y a plus de 1100 victimes, parmi lesquelles le supérieur général des bénédictins, l'archevêque d'Arles, les évêques de Saintes et de Beauvais et 362 prêtres, parmi lesquels François Dardan, né à Istritz, dans la maison Saritea, un ancien professeur de l'Arsor, qui, quelques années plus tôt, avait quitté le Pays basque pour assurer à Paris l'aumônerie de maisons religieuses. Les pouvoirs publics avaient laissé faire, ni Danton ni Robespierre n'avaient bougé, Panisse et Marat avaient poussé au meurtre. Les révolutionnaires savaient que les massacres de septembre avaient détaché durablement les catholiques de la Révolution. Ils n'allaient pas s'en tenir là. En septembre 93, 160 réfractaires de la Sarthe sont conduits à Nantes où on les embarque pour la Guyane. Bientôt, sous la terreur, soit du milieu de 93 jusqu'au milieu de 94, Robespierre tombe le 9 Thermidor en deux, c'est-à-dire le 27 juillet 1794. Pendant la terreur, on ne fait plus de différence entre les assermentés et les insermentés. Tous sont également bons pour la déportation ou la guillotine. L'évêque constitutionnel de Paris, Gobel, est guillotiné en avril 1994. À Lyon, tous les prêtres, jureurs ou non-jureurs, étaient sommés, sous peine de mort, de renoncer à leur sacerdoce. À Toulouse, on les obligeait à se marier pour avoir la vie sauve. Les bonnets rouges de l'armée révolutionnaire, observe Pierre Miquel, ont été des agents de déchristianisation souvent efficaces. Ils détruisent avec une joie sauvage les statues, les vitraux, les croix au bord des routes. Ils persécutent les prêtres et ferment les églises. Un lieutenant qui veut interdire la messe dans un village de l'Aube se fait emprisonner par les paysans. Il écrit à la section des gardes françaises que ces gueux de prêtres règnent encore dans nos villes et villages. Ils attirent nos femmes et enfants pour tourner les esprits de travers. Les bonnets rouges dénoncent le prêtre confesseur, briseur de ménage, engrosseur de femmes. Il s'affuble de chasubles pour procéder à des cérémonies blasphématoires. À Auxerre, un groupe de soldats de l'armée révolutionnaire se déchaîne dans les églises, demandant aux paroissiens de cracher sur le crucifix. Prêtres maltraités, peintures et sculptures détruites sont le lot commun des paroisses traversées par les colonnes qui se rendent à Lyon ou à Toulon. Antoine Richard, dans son livre sur le gouvernement révolutionnaire dans les Basses-Pyrénées, donne le récit significatif de la fête du 18 Germinal an 2 à Tarbes. C'est une fête à laquelle assistèrent les commissaires de la Convention, Monestier et Ferraud. Elle fut marquée par un défilé grotesque, dont un groupe symbolisait le ridicule de la bizarrerie, le pédantisme et l'ignorance. C'étaient des personnages travestis en prêtres, en diacres, en acolytes, en bigots, chantant des airs lugubres, suivant l'infaillibilité en bêtises, le mannequin du pape, qui, presque agonisant, traîné par trois ânes sur un tombereau, recevait les dernières consolations d'un confesseur, un singe déguisé en capucin. Le même tombereau portait une foule de saintes et de saints que les enfants avaient abattus dans la ci-devant église de Saint-Jean, sans qu'ils fissent aucun miracle. L'on avance vers le temple de la raison. Déjà une grande partie du cortège a pénétré dans son enceinte. Il ne restait plus hors des murs que le cortège grotesque qui chargeait des attributs du fanatisme, psalmodie de tristes complaintes auprès du mannequin. Le clergé se présente à son tour, mais à peine a-t-il touché le seuil sacré que les portes se ferment avec fracas. Alors le peuple fait retentir l'air de ses huées insultantes. Il se presse en ricanant autour des masques qui d'abord jouent la fureur, puis le repentir, et qui enfin, se débarrassant de tout le harnais ecclésiastique, se présentent encore à l'entrée du pape, coiffés du bonnet de la liberté. Ils sont accueillis, mais le peuple semble les suivre d'un air inquiet, doutant de leur conversion. Les prêtres, parmi beaucoup d'autres victimes, sont noyés à Nantes, à Nantes par Carrier, mitraillés à Lyon par Fouché, l'ancien oratorien. Un rade de Rochefort, au 90 850, arrêté dans les Charentes, le Nord, l'Est, la Belgique, on les entasse sur les pontons de vieux trois mois, sur les pontons de vieux trois mâts, là, dans des conditions de promiscuité et de misère épouvantables, livrés sans défense à la brutalité de prétendus marins, décimés par les épidémies, ils se préparent à la mort avec une charité héroïque dont témoignent les résolutions qu'ils rédigèrent et jurèrent de mettre en pratique. En février 95, soit 7 mois après la chute de Robespierre, on songea à sortir ces martyrs de leur bagne flottant. Il en restait 274. Récemment, le pape Jean-Paul II a béatifié 102 victimes des pontons de Rochefort. La Convention avait entrepris de déchristianiser la France. Au culte traditionnel, on substitua celui de la déesse raison et on organisa des cérémonies où de jeunes femmes jouaient le rôle de la déesse. On supprima les saints dans les toponymes. Ainsi, Saint-Esprit s'appela dès lors Jean-Jacques Rousseau, Saint Jean de Luz, Chauvin Dragon, Saint Jean Pied de Port, Nive Franche, Sainte Marie de Laurent, Maratide, Saint Pé sur Nivelle, Bogard, Saint Palais, Montbidouze, Saint Étienne de Baïgorry, Thermopyle, et pour faire bonne mesure, Ustaritz, avec le beneplacitum de Dominique Joseph Garat, son fils illustre, devint Marat sur Nive, Bayonne, Port sur Montagne, Urte, Liberté, Itsassou, Union. Ailleurs, dans la Nièvre, on verra Coulanges devenir Cou sans culotte. À la semaine, on substitua la décade, primedi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi, le jour de repos et de fête, plus célèbre grâce aux événements dont il porte les dates, on se rappelle les mois, vendémiaire, brumaire, frimaire, nivose, pluviose, ventose, germinale, floréale, prairiale, messidore, thermidore, fructidore. Bref, les jacobins vainqueurs entendent réaliser une révolution des mentalités, une révolution culturelle qui n'est pas sans analogie avec, plus proche de nous dans le temps, la révolution des sans-fleurs qu'entreprendra Mao Tse-tung. Dans ces conditions, l'Église constitutionnelle connaît la débâcle. Un décret de la Convention, le 27 juillet 1793, engage les prêtres à se marier s'ils veulent conserver leur traitement. Un autre arrêté, celui du 15 novembre 1793, les invite à une déclaration d'abdication, c'est la formule employée, autrement dit à renoncer à l'exercice de leurs fonctions. Environ 15 000 prêtres présentent leur abdication. 4 500 se marient, souvent avec leur gouvernante. À ce propos, Pierre Pierrard, dans l'Église et la Révolution, rapporte qu'en 1797, vint se confesser à Henri Grégoire, l'évêque constitutionnel du Loir-et-Cher, peu tendre pour les prêtres mariés, mais peut-être peu scrupuleux sur le secret de la confession, un vieux curé du diocèse d'Aix, Paul Martin, prêtre jureur. Ayant appris l'exécution de son évêque, Monseigneur Charles-Benoît Roux, et un terroriste, lui ayant insinué que seul le mariage pouvait le sauver de la mort, Martin, 76 ans, s'était présenté avec sa gouvernante, 58 ans, devant la municipalité pour se marier. Mais il jura à l'évêque Grégoire qu'il vécut avec elle comme frère et sœur, ce qui ne l'empêcha pas, admire Pierrard, de demander pardon pour le scandale causé. Cela n'empêche pas de nombreuses exécutions d'évêques et de prêtres, même assermentés. Ainsi, Jean-Baptiste Gobel, métropolitain de Paris, Claude Fauché, évêque du Calvados, Jean-Louis Goutte de la Saône-et-Loire, Louis-Alexandre Espilly du Finistère, Charles Benoît Roux de Marseille et combien d'autres passeront en prison des mois et des années. Le 18 septembre 1994, la Convention supprime le budget des cultes, considérant que la religion n'a plus cours en France. Cependant, le décret du 3 Ventose en 3, 21 février 1995, reconnaît la liberté des cultes. Ce qui reste de l'Église constitutionnelle va alors essayer de se réorganiser sans moyens financiers, sans église, le clergé concordataire ne comptera que 3 000 de ces prêtres assermentés qui ont été 25 000 ou davantage. mais on assiste surtout au retour du clergé réfractaire, que la prudence oblige souvent encore à la clandestinité, mais qui retrouve cependant le contact avec le peuple chrétien, qui le cache, qui l'héberge, qui a recours à sa parole et au sacrement qu'il administre, aussi bien pour rebaptiser et remarier ceux qui s'étaient précédemment confiés au constitutionnel. La prudence est toujours de mise, étant donné que les autorités locales, en particulier les commissaires du gouvernement, sont en mains endroits violemment anticléricales. Mais ailleurs, on sonnait joyeusement les cloches des églises où l'on célébrait la messe à l'ancienne devant les statues restaurées. 12 ou 13 000 exilés ou déportés sur 20 000 retrouvèrent leur paroisse. Même les évêques émigrés rentraient. Les religieuses reprenaient leurs habits et leur rôle d'infirmières dans les hôpitaux. Les établissements religieux d'enseignement pour jeunes filles rouvraient quelquefois leurs portes et personne n'assistait au culte décadaire. La persécution se réveille avec une extraordinaire violence en septembre 97, après le coup d'État du 18 Fructidor en 5. Qui a brutalement réagi contre les succès que les royalistes connaissent tant auprès de l'opinion que dans les élections qui viennent d'avoir lieu. Les prêtres sont obligés de prêter serment de haine à la royauté, d'attachement et de fidélité à la constitution de l'an 3, celle du directoire. 1724 arrêtés de déportation sont lancés contre des prêtres en France et davantage encore dans les départements de Belgique. On en dirige effectivement vers la Guyane. Heureusement, les vaisseaux britanniques capturèrent quelques-uns des bagnes flottants. Des 256 qu'on réussit à transporter en Guyane, le sort fut épouvantable. Installés dans des cases de branchage, à peine nourris, abreuvés d'une eau bourbeuse, soumis au climat terrible, aux maladies, aux insectes, ils moururent dans la proportion 1 sur 2. Quant au reste, à ceux qu'on ne put pas déporter, on les répartit dans les îles de Ré et d'Oléron, entassés d'incroyable façon dans les casemates des forts, pêle-mêle avec des condamnés de droit commun, des chouans raflés en Bretagne, des terroristes qui parfois étaient des prêtres apostats, comme le fameux Aubé, bandit des Ardennes. Mais là encore, comme la guerre sur les pontons de Rochefort, ces bagnards de Dieu se montrèrent saintement héroïques. C'est sous le consulat que l'Église de France va retrouver, après 11 années de souffrance et d'héroïsme, la paix et la liberté. Elle en sera longtemps un gré très vif à Bonaparte. Et pourtant, ce concordat de 1801, signé entre le premier consul et le pape Pie VII, sera loin d'être à l'abri des critiques. Il suscitera même le schisme de la petite Église. Il faisait du clergé de France un corps de fonctionnaires qui serait aisément conservateur. Il n'empêche, le XIXe siècle, malgré ses ombres, sera un grand siècle chrétien. Ainsi, ces fidèles et ce clergé du XVIIIe siècle, qu'on aurait pu croire amolli, affadi, ont opposé à l'entreprise déchristianisatrice de la Révolution une résistance magnifique et finalement victorieuse. Le crédit du pape également sort grandi de cette épreuve qui fut si lourde pour Pie VI, odieusement traitée par la soldatesque révolutionnaire. Le catholicisme français sera au XIXe nettement ultramontain. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que à partir de ces événements, et sans doute plutôt à cause de la propagande antireligieuse des Lumières que du fait des violences révolutionnaires, le peuple français n'est plus unanimement chrétien. Il y a désormais deux France, celle de Pascal et celle de Voltaire, celle de la foi et celle de la Révolution, qui ne vont pas s'accorder sur des valeurs et des intérêts communs, mais s'affronter avec passion. La lutte pour ou contre l'Église va considérablement marquer le débat politique. Nous aurons au cours de nos prochaines séances des occasions nombreuses et sérieuses d'en faire état, et d'abord à propos de l'amener.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 16e épisode, l'amener et le libéralisme.